enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Père éternel, on vient devant toi. Seigneur Dieu, je veux te remercier, Seigneur, pour ta parole. On est tellement bénis, Seigneur, que tu ne nous as pas laissés dans la noirceur, mais tu nous donnes un plan spécifique pour notre vie, un plan de bénédiction. Et Seigneur Dieu, je te prie qu'aujourd'hui, pendant qu'on enseigne la parole, je te prie, Seigneur, que les gens vont vraiment être attentifs et qu'ils vont recevoir de toi, de ta parole, que ça puisse changer leur vie, qu'ils soient transformés aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, j'ai prié pour ta gloire. Amen. Alors, je vous invite à tourner dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et le verset 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et le verset 18. Ça dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Ça, c'est un texte que, en tout cas, il y a toutes sortes d'interprétations de ce texte-là. Il y a même des livres qui ont été écrits concernant ce texte-là. Et il y a des gens qui vont dire « Faut rendre grâce à Dieu pour toutes les choses qui nous arrivent. » Mais quand on regarde ce texte-là, ça dit « Rendez grâce en toutes choses. » Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Peu importe la situation dans laquelle on se retrouve, il faut remercier Dieu parce qu'on sait que c'est lui notre source, on sait que c'est lui notre délivreur, on sait que c'est lui qui va venir nous secourir. Mais c'est en toute chose qu'on va lui dire merci, mais pas nécessairement pour toute chose. Une petite nuance, hein? Toute une nuance, mais il y a des gens qui ont écrit des livres là-dessus. Merci Seigneur pour le cancer, merci pour mon accident d'auto, merci pour toute l'œuvre de Satan dans ma vie finalement. Mais ça, Dieu veut qu'on puisse marcher avec un discernement, qu'on puisse voir qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui vient de l'ennemi. Puis quand on marche dans le discernement, on ne va pas assassiner le caractère de Dieu. Je l'ai déjà dit, mais ça, c'est une chose qu'on veut faire ici. On veut revenir à la parole de Dieu et honorer le nom de Dieu. On ne veut jamais assassiner son caractère et dire que c'est l'auteur, que Dieu est l'auteur des malheurs dans la vie des croyants. Et il y a toutes sortes d'enseignements. Même la semaine passée, on a parlé un petit peu du livre de Job. On a parlé la semaine passée, qu'est-ce qui peut ouvrir les horreurs dans la vie du croyant. Il y a des choses, entre autres, comme la crainte. Job a dit « Ce que j'ai craint, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. » Pardon. On a parlé un petit peu la semaine passée de la crainte. Et comment on avait une destinée en Dieu, mais l'ennemi, ce qu'il voulait, c'est nous garder dans l'ignorance, soit qu'on soit ignorant de notre héritage en Christ, ou si on a découvert c'est quoi, il veut nous séduire à ne pas croire que c'est pour nous. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Il veut venir nous empêcher de recevoir notre héritage en Jésus-Christ. Mais nous, on n'est pas ignorants, on va dans la parole de Dieu, on découvre c'est quoi qui nous appartient. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait? Non seulement on connaît la chose, mais là, on ose croire les promesses de Dieu. Parce que les promesses de Dieu sont oui et amen. Amen? Amen. Alors nous, on va dire merci Seigneur en toutes choses. Peu importe qu'est-ce qui peut se passer, nous, on veut faire des actions de grâce envers Dieu. Puis vous savez, des fois, on peut parler avec des gens au Québec. Mon épouse, cette semaine, a parlé avec des voisins et puis, ou des voisines. Là, elle disait « Ah, est-ce que vous fêtez ça, vous, l'action de grâce? » Puis la madame a dit « Non, elle dit nous, on ne fête pas ça. Ce n'est pas vraiment dans notre culture. » Et puis, vous savez, dans le monde anglophone, c'est très, très célébré. En fait, là, c'est comme Noël pour eux autres. Là, les parentés viennent ensemble, ils ont la dinde, la farce, tout le kit, là, parce que c'est l'action de grâce. C'est un temps où on va être reconnaissant envers Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous pendant l'année. Mais au Québec, est-ce qu'on fête ça? On va magasiner. Il y en a qui vont le faire. Il y en a qui vont le faire, mais il y en a qui vont juste prendre ça comme une journée de congé. Moi, je crois que c'est vraiment spécial. On devrait célébrer ça. Puis dire merci Seigneur. Et on habite dans un pays merveilleux. Vous savez, on dort pas dehors, personne, je pense pas, là. On est béni, on a un toit sur notre tête, on a des véhicules, on est habillé, on mange à chaque jour, on n'a pas mal au ventre, on n'a pas mal à la tête parce qu'on ne mange pas. On est tellement béni d'habiter au Canada. Là, on a plein de raisons de dire merci à Dieu. Mais il faut lui dire merci pour les bonnes choses. Amen. S'il vous donne un cadeau, merci Seigneur pour le cadeau. Si une bombe qui s'en vient vers vous, c'est pas merci Seigneur pour ça. On court dans l'autre direction. Amen. Donc, on veut dire merci. Merci Seigneur pour la révélation de ta bonté. Ça, c'est une chose ici qu'on veut vraiment que chaque personne ait ça, cette parole-là ancrée en dedans d'eux, là, que Dieu est bon. On veut aller au-delà de la tradition puis juste dire, ah, oh, le bon Dieu, il est bon. mais finalement qu'on y croit pas. On veut vraiment que ça soit ancré en nous, là. Si vous devenez membre de cette église, que vous venez, que vous adoptez cette église comme étant votre chez vous, vous devez être renouvelé dans votre intelligence. Il faut mettre de côté la théologie québécoise qui dit que Dieu est méchant, puis il faut accepter la vérité de la parole de Dieu, que Dieu est bon. Puis on va voir, c'est-tu la parole de Dieu? Psaume 105, verset 1, ça dit, le psaume 105, verset 1, « Louez l'Éternel, invoquez son nom. » En anglais, ça dit « Give thanks unto the Lord, give thanks. » Mais en français, c'est « Louez l'Éternel. » Mais ça veut dire la même chose. On loue, on remercie le Seigneur. « Invoquez son nom. » »« Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. » Vous savez, quand on connaît Dieu, puis on est heureux de le servir, on va parler aux gens de ses hauts faits. On va dire « Ah, Dieu est tellement bon dans ma vie. » On va pouvoir en parler aux gens. C'est ça que Dieu veut, qu'on fasse une bonne publicité pour lui. Amen. Qu'on soit vraiment des personnes qui ont été touchées par Dieu, mais aussi qui peuvent bien parler à son sujet, qui vont bien le représenter. On va dire, Dieu a fait ci dans ma vie. Dieu m'a guéri. J'étais malade, mais Dieu m'a guéri. J'étais pour avoir un accident d'auto, mais Dieu est venu me secourir à ce moment-là, comme j'ai vécu. J'en ai partagé la semaine passée. Comment Dieu a surnaturellement déplacé notre véhicule pour pas qu'on frappe un mur de briques. Dieu est bon. On va faire sa publicité. Psaume 106 et le verset 1, il est écrit, « louez l'Éternel ou give thanks, dites merci à Dieu, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Dieu est bon, encore on vient de le voir, et sa miséricorde dure à toujours. Dieu est toujours bon, il ne change jamais. Et la preuve, c'est dans Jacques chapitre 1, versets 16 à 17. S'il y en avait qui pensaient peut-être les gens que Dieu n'était pas vraiment bon. Mais dans Jacques chapitre 1, verset 16 à 17, ça dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce ou toute faveur excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Si Dieu était bon hier, il est encore bon aujourd'hui. Le Dieu qu'on sert, c'est un bon Dieu. Et tout don parfait descend d'en haut, puis ça vient du Père des Lumières. » Donc, il n'y a pas de ténèbres en Dieu, pas de noirceur en lui. Puis moi, ma prière pour vous aujourd'hui, si vous vous rappelez juste d'une chose, là, c'est que Dieu est bon. Si vous quittez cette église, vous dites, j'ai appris une chose, Dieu est bon. Le bon Dieu est bon. Eh bien là, vous passerez le test. Parce que si vous pouvez toujours voir toutes les choses, si vous pouvez tout interpréter à la lumière du caractère de Dieu, que Dieu est bon, vous allez réussir dans la vie. Vous allez réussir à tout connaître la parole de Dieu parce que vous allez toujours savoir, Dieu est bon. Et je vais lire quelque chose dans la parole, puis je vais dire, « Ah, je ne comprends pas. Comment ça, Dieu a pu permettre ça dans l'Ancien Testament? Ah, Dieu est bon. Si je ne comprends pas, c'est parce que c'est moi qui ne comprends pas. Ce n'est pas parce que Dieu est en erreur. » Vous savez, des fois, on lit des choses dans l'Ancien Testament. « Oh mon Dieu, des atrocités qui se passaient là. Mais Dieu n'était pas bon. Ah, non, non, non. C'est qui se trompe? Est-ce que c'est Dieu qui s'est trompé ou c'est moi qui peut peut-être se tromper? » Habituellement, je pense que Dieu ne se trompe jamais. Donc, je peux vous affirmer, Dieu ne se trompe jamais. Tout ce qu'il a fait, c'est toujours bon. Puis des fois, on réalise par après, on vient à comprendre des choses, pourquoi Dieu a agi d'une telle façon. Mais nous, on est ses créatures, on ne comprend pas tout Dieu. Savez-vous ça? Dieu, il n'y a pas de date de naissance, puis il n'y a pas de date où il va mourir. Dieu est éternel. On ne peut pas le saisir avec notre intelligence. On ne peut pas dire, bon, c'est impossible, Dieu est tellement grand, on ne peut pas saisir la grandeur de Dieu avec notre intelligence. Alors, il faut marcher par la foi. Mais en même temps, ce n'est pas une foi aveugle, comme les gens vont dire. Des fois, les gens vont dire, « Ah, mais vous autres, vous croyez juste que c'est une aveugle, comme ça, c'est une foi aveugle plutôt. » Mais moi, je peux vous dire, je ne suis pas aveugle et j'ai vu de mes yeux la bonté de Dieu. J'ai vu tellement de grandes choses que Dieu a faites. Et puis, ce n'est pas aveugle. Mais ma foi était là, sans voir, et là, après, j'ai vu. Parce que la parole de Dieu dit, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Si tu crois, l'étiquette pour voir la gloire de Dieu, c'est la foi. On croit, on va voir les choses. Il y a des gens qui veulent voir avant de croire. Ce n'est pas la recette biblique, ça. C'est on commence à croire, puis là, on voit Dieu agir dans nos vies. Amen. Donc, cette semaine, là, toute la semaine, vous pouvez penser à ça. Merci, Seigneur, pour la révélation de ta bonté. Et mon autre point ce matin, c'est merci, Seigneur, pour la sécurité de marcher dans la lumière de ta parole. On est sécure, nous, les enfants de Dieu, parce qu'on a la parole de Dieu pour nous donner la vérité. Si quelqu'un arrive avec toutes sortes d'enseignements, quelqu'un arrive et me raconte des choses au sujet de Dieu, ça m'est souvent arrivé, puis les choses, les témoignages, c'est complètement contraire, complètement en dehors de la parole de Dieu, mais pourtant, il prétendait que ça venait de Dieu. Et même, dans une situation, j'ai dû parler avec une personne et j'ai dit, « Je m'excuse, mais qu'est-ce que tu me dis? Je trouve pas ça en parole. Pourrais-tu me le prouver de la parole de Dieu? Puis j'ai même pas dit ça de même. J'ai dit, pourrais-tu me le montrer de la parole de Dieu? Et la personne a dit, non, c'est pas dans la Bible, là, mais si moi je crois vraiment à ça, c'est clair, là. Mais c'est comme, si c'est vraiment clair, il faut que ça soit assez clair, que ça soit dans la parole de Dieu. Parce qu'il y en a qui vont, ouais, mais nous autres, on va plus loin, là. Mais si on dépasse la parole de Dieu, dans le sens qu'on contredit la parole, on est allé trop loin. On est allé trop loin. On revient à la parole. Il faut que tout soit conforme à la parole de Dieu. Donc, dans Psaume 119, le verset 105, il est écrit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et la semaine passée, j'ai dit qu'on était pour continuer à parler un petit peu des choses qu'on doit discerner. Puis vu que je l'ai dit la semaine passée, je veux le faire cette semaine. Et on va juste parler un petit peu d'une chose que j'ai mentionnée. Comment est-ce qu'on peut discerner le vrai du faux réveil? Parce qu'on a parlé de la semaine passée de toutes sortes de choses, mais comment on était destiné à régner en Christ. On a parlé de l'autorité d'Adam, comment Adam avait donné son autorité à Lucifer et comment l'ennemi est devenu le Dieu de ce monde, comme on retrouve dans 2 Corinthiens 4:4. Et là, Jésus-Christ est venu nous racheter et donc il a tout racheté, il a repris l'autorité que Adam avait donnée à Satan. Donc l'autorité est venue à Jésus-Christ et Jésus a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et là, Jésus a donné son autorité à l'Église dans Éphésiens 3:20. Alors là, l'autorité, c'est en Christ. Et puis nous sommes le corps de Christ. Christ est la tête de l'Église. Et nous, on reçoit les mandats de Dieu pour opérer comme Christ veut qu'on marche dans le monde. Donc, on a parlé de l'autorité du croyant, tout ça. Et là, quand on a parlé de tout ça, on a dit que Dieu, s'il nous donne l'autorité, c'est pour faire quelque chose. Et si on fait quelque chose, il faut bien discerner c'est quoi ces choses-là sont. On doit bien discerner la volonté de Dieu. Entre autres, on a parlé un petit peu comment il y a des gens qui nous empêchent ou qui veulent nous empêcher d'entrer dans cette autorité-là ou de marcher dans l'autorité de la parole de Dieu. Et ils vont nous donner des paroles de crainte ou ils vont s'opposer carrément à la parole. Mais moi, ce que je vous ai dit la semaine passée, c'est que si on prend du temps à la parole de Dieu, on va être capable de discerner quand c'est vraiment de Dieu, quand ça ne l'est pas. On peut même discerner quand c'est un vrai réveil ou quand c'est un faux réveil. Et je vous ai dit clairement, la semaine prochaine, on va regarder c'est quoi un vrai réveil. Alors, vu que je l'ai dit, on va le faire. Je ne veux pas vous mentir. Alors ça, c'est un petit volet là, à côté avec mon message de la reconnaissance. Mais après, on va dire merci Seigneur parce qu'on va marcher dans la sécurité de la lumière de ta parole. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir si un réveil est de Dieu? Dans Marc chapitre 6, versets 12 à 13, ici, les 12 apôtres partirent et ils prêchèrent la repentance, ils chassèrent beaucoup de démons, éloignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Donc, un vrai réveil va être en accord avec la parole de Dieu et va avoir le modèle du Nouveau Testament. On va voir que le peuple de Dieu, le réveil, quand ça s'en vient, ça va avoir les mêmes caractéristiques qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Alors, les apôtres, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prêchaient la repentance. Donc, un vrai réveil, il devrait avoir un message de repentance où les gens veulent se détourner du péché et ils veulent marcher avec Dieu. Si on dit, hey, un réveil là-bas, mais les gens ne se tournent pas vers Jésus-Christ, les gens ne veulent pas se détourner de leur péché, c'est pas un réveil selon la parole de Dieu. Parce qu'un réveil va toujours avoir le message de repentance. Il chassait beaucoup de démons, éloignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Donc, un vrai réveil selon Dieu, il devrait avoir des démons qui vont être chassés et des guérisons. C'est biblique. Amen. Bon, pourquoi? Marc chapitre 3, versets 22 à 30. Ça dit, « Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, en parlant de Jésus, ici, là, les scribes disaient, « Il est possédé de Béelzébul, c'est par le prince des démons qu'il chasse des démons. » Donc, les scribes ici accusaient Jésus d'être possédé d'un démon. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan? » Voyez-vous, si un réveil et là, le prédicateur chasse des démons et les personnes sont guéries par la suite, on sait que cette personne-là est animée par Dieu. Parce que Satan ne peut pas chasser Satan. C'est pour ça que c'est un des critères d'un vrai réveil. Ils vont prêcher la repentance, mais aussi ils vont chasser les démons. Parce que Jésus a dit, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Et dans Actes, chapitre 3, le verset 19 à 20, ça dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Donc, un vrai réveil va avoir un message de repentance, on va chasser les démons, on va guérir les malades. Et là, ça dit « Repentez-vous afin qu'il y ait des temps de rafraîchissement, afin qu'il puisse avoir un réveil. » S'il y a ces critères-là, on devrait être à la bonne place. Parce que quelqu'un qui est animé de l'ennemi, qui est un faux apôtre, un faux prophète ou faux évangéliste, il ne sera pas capable de chasser un démon. Parce qu'il faut avoir la puissance de Dieu pour faire ça. Amen! Ça, c'est merveilleux. Ça nous donne un petit peu de sécurité. On peut discerner qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. Parce qu'il y a des gens, des fois, sous la crainte, comme « Je ne suis pas sûr, c'est-tu de Dieu, c'est-tu pas de Dieu? » Qu'est-ce qui se passe là? C'est qu'on commence à craindre l'œuvre de Dieu et là, on passe à côté des bénédictions de Dieu. Et vous voyez ici, quand ça disait, là, les scribes disaient que Jésus était animé d'un démon, eux, en fait, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? C'était le blasphème contre le Saint-Esprit. Puis dans Marc 3, 29, ça dit, commençons au verset 28. « Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » Jésus parlant ainsi parce qu'il disait « Il est possédé d'un esprit impur. » Voyez ici, des fois, là, quand j'ai parlé avec des nouveaux chrétiens, des fois, les gens vont lire ça puis vont dire « Moi, Joël, là, j'ai peur d'avoir commis le blasphème contre le Saint-Esprit. » Et puis, vous savez, si on a commis ce péché-là, là, on ne voudra même pas rien savoir de Dieu. Parce que commettre le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est d'attribuer l'œuvre de Satan à Jésus. C'est de dire que Jésus est animé par Satan. Donc, si Jésus est démonisé, là, puis c'est un démoniaque, admettons, c'est impossible d'être sauvé. C'est le péché qui est impardonnable. Si on dit Jésus, c'est un démon. On ne peut pas être sauvé sans Jésus. En d'autres mots, c'est ça que ça veut dire. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est de dire qu'on ne peut pas être sauvé par Jésus. C'est parce que s'il est animé par un démon, il ne peut pas venir nous sauver. Comprenez? C'est aussi simple que ça, le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais l'ennemi veut venir nous mettre des bois dans les roues, des bâtons dans les roues. Hein, c'est ça. Moi, les bois dans les roues, c'est comme les expressions québécoises. Des fois, je ne les ai pas trop. Là. Mais c'est ça. Tout ça pour dire, là, on peut discerner un vrai, d'un faux réveil, et puis on peut marcher dans la paix à cause de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, l'action de grâce, merci pour la sécurité, marcher dans la lumière de la parole de Dieu. C'est merveilleux ça. Hein, on n'est pas obligé d'être aveugle. S'il y a un réveil qui se passe à quelque part, et là les gens commencent à dire « Hey, c'est merveilleux. » Ah, là, vous êtes venu à l'église ce matin, vous savez c'est quoi les critères d'un vrai réveil, vous allez pouvoir savoir, est-ce que la sainteté, si on prêche la repentance mais on ne la vit pas, par exemple, est-ce qu'il y a la sainteté dans cette place-là? Ah, ben peut-être que ce n'est pas de Dieu, vous voyez? Donc, c'est les critères qu'on retrouve. S'il prêche, repentez-vous donc et convertissez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent. Alors ça, c'est un message qui ressemble à celui de la parole de Dieu. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir aucune crainte, aucun doute. Parce que Dieu, là, il veut qu'on soit des croyants en paix. Savez-vous ça? Ça, c'est un des désirs. Jésus est venu nous donner la vie et la vie en abondance. On est supposé de marcher en paix, dans la joie, pas stressé puis inquiet. Moi, vous savez, pendant 4 ans, j'étais dans une église où je suis devenu très, très, très intellectuel, où j'ai commencé à tout remettre en question, ma théologie, et puis là, on me posait des questions sur toutes sortes de doctrines, puis j'ai étudié sur toutes les pensées, le calvinisme, l'arménisme, tous les ismes. Puis là, je me suis mis à vraiment là, comme scruter. Et là, après 4 ans, le Seigneur m'a dit, « Joël, t'es malheureux, t'as perdu ta joie. Vraiment, t'as perdu la raison pourquoi je t'ai sauvé. Moi, je t'ai sauvé parce que je voulais que tu sois dans la joie. Puis tu l'as perdu, ta joie. » Puis là, j'ai dit au Seigneur, « Ouais, c'est vrai. » Puis le Seigneur m'a dit, « Joël, si c'est moi, si c'est le Saint-Esprit qui t'enseigne, ça ne serait pas comme ça. Quand là, le Saint-Esprit nous conduit, nous enseigne, c'est doux et léger son fardeau. Quand on est écrasé, là, c'est parce que c'est nous autres, on essaie de tout comprendre par notre tête. Mais c'est pas comme ça qu'on apprend. Dieu nous parle dans notre cœur et Dieu nous donne des révélations de sa parole. Et là, on marche dans la paix, dans la joie. Il n'y a jamais aucune raison pour un enfant de Dieu devrait marcher dans le découragement, dans sa marche avec Dieu. Quand on marche avec Jésus, Jésus n'est jamais bougonneux. Il est toujours content, Jésus. Si on marche avec lui, on devrait être content. C'est dit, soyez toujours joyeux, c'est la volonté de Dieu. Soyez toujours joyeux. C'est parce qu'on marche dans la paix. On sait que Dieu prend soin de nous. Jésus nous conduit au bon port. Il n'est pas en train de me conduire vers un précipice. Parce que je marche avec lui. Amen. Amen. Merci aussi pour le privilège d'être membre de l'Église. Ça, c'est un privilège qu'on peut faire partie d'une famille. Moi, là, je suis tellement reconnaissant de faire partie de la maison de Dieu. Amen. C'est vrai. Moi, je suis en accord avec moi-même. Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, 18. Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église. » Et comme j'ai dit dans la première réunion, j'ai pas la responsabilité de bâtir l'Église de Bromont. C'est Jésus qui a bâti. C'est lui qui est en charge de bâtir l'Église. Merveilleux, ça? Moi, je suis juste là pour être son instrument pour faciliter son travail sur la terre. C'est le berger de notre Église. Moi, je ne suis pas le berger de cette Église. Je suis le sous-berger. Je suis juste là pour écouter les instructions de mon maître. Et vous, vous êtes là aussi pour écouter le maître. Et moi, je suis là pour vous aider dans votre marche avec Dieu. Mais il faut qu'on garde nos yeux toujours sur celui qui bâtit l'Église. Puis de ne pas commencer à shifter de Jésus-Christ à un homme. Vous savez, des fois, si on place nos yeux sur les hommes, on peut se faire décevoir. On peut être déçu par les hommes. Moi, j'ai été dans des ministères différents. Puis on dirait à toutes les places que j'ai passées, j'ai eu des occasions d'être découragé avec des hommes. Je peux vous dire ça. Partout où je suis passé, j'ai eu des opportunités d'être découragé. Mais gloire à Dieu, Dieu ne nous faillit jamais. Dieu est toujours fidèle, Dieu est toujours bon. On ne se trompe jamais avec lui. Amen. Mais c'est ça, et Dieu veut qu'on soit aussi guidé par son Saint-Esprit. Parce que quand on est guidé par Dieu, la parole de Dieu nous dit que les enfants de Dieu sont guidés par l'Esprit de Dieu. Donc, on va être dépendant de lui au lieu d'être dépendant des hommes. Les hommes peuvent nous décevoir, mais Dieu ne nous déçoit pas. Dans Éphésiens 2, verset 10, ça dit, « Nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » C'est une chose, on sait qu'on fait partie de l'Église de Jésus-Christ, c'était par la grâce qu'on a été sauvés, par le moyen de la foi, puis ça n'avait rien à faire avec nous autres. C'était tout un cadeau de Dieu. Mais heureusement, Dieu nous donne d'autres conseils après. Il y a des gens qui diraient, « C'est trop facile d'être sauvé, Joël, ça ne coûte rien. » Ça coûtait beaucoup à Jésus, mais une fois qu'on est sauvé, là, on est censé de vivre une vie de bonnes œuvres. C'est la volonté de Dieu, qu'on marche dans la volonté de Dieu pour nos vies et qu'on soit occupé jusqu'à temps qu'il revienne. Le verset qui me vient, c'est en anglais, ça dit « Occupy till he comes ». Occupez-vous jusqu'à temps qu'il vienne. Faites de la business, c'est ça que ça dit. Soyez des businessmen jusqu'à temps que je revienne. Traduction québécoise, là. Mais c'est ça, soyez des businessmen jusqu'à temps que je revienne. Dans le sens, vous êtes à l'œuvre pour Dieu. Donc, on peut dire merci pour l'Église, mais aussi, on peut être reconnaissant que Dieu, il veut bien se servir de nous dans l'Église. Vous savez, il y a des gens qui vont aller à l'Église, et puis pour eux, c'est comme un théâtre. Est-ce que vous êtes déjà rentré dans une Église? Vous rentrez, et puis vous ne parlez pas à personne. Il n'y a personne qui vous parle. Puis vous sortez, il n'y a pas personne qui vous a parlé. Ça, c'est une Église théâtre. Ici, à Bromont, ce n'est pas ça. On ne veut pas une Église théâtre. On est en train de fonder une famille ici. Et si vous voulez la fraternité, vous êtes à bonne place, parce qu'on va en avoir ensemble. Et une des façons de maintenir la fraternité, ça me vient là, c'est de parler des choses positives qui vont bénir les gens. La majorité d'entre vous, vous venez déjà des autres églises. Quand on va passer du temps ensemble pour fraterniser, est-ce que ça serait possible de parler du présent, puis de ne pas parler du passé? J'irais même oser dire, demandez même pas de questions, d'où c'est que tu viens, dans quelle autre église? Je ne veux pas vous lier vos paroles. Si ça vous tente d'en parler, c'est comme vous voulez. Mais pourquoi parler du passé? Puis d'où c'est que vous venez? Puis tu crois-tu que le baptême du Saint-Esprit, c'est ça? Ou tu penses-tu que le salut se perd? Au Québec, on dirait qu'il y a deux questions. Puis partout, c'est que je passe. Le salut se perd-tu? Ou le baptême du Saint-Esprit, c'est-tu les langues? Savez-vous, là, on peut bâtir sur l'amour au lieu de juste de parler de doctrine? Moi, là, en tout cas, c'est ça que j'aimerais bien voir, moi. C'est qu'on peut s'aimer. Puis si vous pensez que le baptême du Saint-Esprit, c'est X, puis l'autre frère pense c'est Y, c'est sûr, moi, je vais enseigner des choses que peut-être vous allez apprendre différemment, mais est-ce qu'on peut se donner le temps de juste recevoir la parole de Dieu, puis se laisser comme guidé par Dieu, puis on ne juge pas le prochain parce qu'il y a une interprétation différente à la mienne ou à la vôtre. On peut juste s'aimer sans tout questionner, puis aller prendre notre loupe puis chercher les petites bébites. Amen. Amen. Donc, moi, là, je suis très béni de faire partie de l'Église de Jésus-Christ. Je suis très béni d'être là pour vous. Et je suis béni que vous êtes là pour nous autres aussi, parce que c'est tellement plus le fun de prêcher à des visages qu'à des chaises. Mais gloire à Dieu, on n'a jamais eu ce problème-là à date. C'est merveilleux. Dieu a vraiment été bon depuis l'ouverture de l'Église. Mais en tout cas, une des choses que je voulais vous partager un matin, puis c'est ça, j'avais tellement de choses qui bouillaient dans mon cœur parce que je reviens de Toronto où j'ai été dans la Convention provinciale centrale des Églises de la Victoire. Puis quand j'étais là-bas, en tout cas, j'ai été tellement béni puis tellement reconnaissant de faire partie de cette famille d'Églises-là. Puis je voulais vous en partager un petit peu parce que vous la connaissez pas vraiment parce qu'on est au Québec et on est la première Église de la Victoire au Québec qui vient de s'implanter ici. Ça fait que je veux vous en parler un petit peu. Vous allez dire, moi, mais Joël, là, on est tous sauvés, qu'on soit dans la victoire ou dans la foi ou peu importe le nom. Puis c'est vrai, on est tous sauvés. Puis j'en ai parlé un petit peu même là-bas. J'ai dit, vous savez, dans le temps, là, quand c'était la Deuxième Guerre mondiale, il y avait Adolf Hitler qui était là, et là, toutes les armées qui trouvaient qu'il n'était pas correct, bon, on s'en allait contre lui. Donc, on avait les Britanniques, on avait les Français, on avait les Américains, les Canadiens. On était tous dans la même mission de tasser Adolf Hitler. N'est-ce pas? C'était bon? On était tous en accord, on avait le même but. Mais des fois, Dieu nous positionne dans une armée, une division de l'armée, là, juste pour qu'on puisse travailler ensemble, parce qu'on a des affinités ensemble. Donc, on était canadien dans le temps, on était dans l'armée canadienne. Et moi, Dieu m'a placé dans cette division de l'armée. Et qu'est-ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a tellement d'affinités, puis on a le même ADN dans notre vision pour rejoindre le Québec. Puis c'est pour ça que je crois que Dieu m'a appelé à travailler avec l'Église de la Victoire en Alberta, puis qui est partout à travers le monde maintenant. C'est vraiment parce qu'on a le même ADN. Au DNA, ouais, ADN. Parce que vous savez, on peut travailler dans une association d'église, mais qui ne croit pas dans les médias, par exemple. Ça se peut qu'ils sont sauvés, ils sont nés de nouveau, ils s'en vont au ciel à la même place que moi, mais ils ne vont pas vraiment dans ma vision de rejoindre la francophonie, parce qu'eux autres, leur vision, c'est, par exemple, faire d'autres choses. Et eux autres, c'est l'évangélisation dans les parcs, admettons. C'est super, on est derrière ça, mais nous, notre vision, c'est de rejoindre la francophonie par les médias. Donc, il faut être associé avec quelque chose qui croit comme nous, qui a la même vision. Et moi, j'étais tellement content quand j'étais à Toronto parce que quand j'étais là-bas, j'ai vu vraiment comment on avait une même vision, puis ils étaient tellement contents qu'on était avec eux pour réaliser la volonté de Dieu pour la nation du Canada. En passant, les Églises de la Victoire, c'est une organisation qui a commencé à partir du Canada. Donc, c'est une organisation canadienne. C'est pas américain, c'est vraiment canadien. Donc, ça a nos couleurs, puis ça a vraiment notre vision de rejoindre cette nation. Alors, une des choses, quand vous venez à l'église ici, peut-être vous allez dire, Joël, c'est bon de savoir qu'il y a une église en Alberta, puis il y en a partout à travers le monde, mais localement, là, est-ce qu'il y a une vision pour nous? Absolument. Dans Jean 13, verset 35, ça dit, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, localement, qu'est-ce qu'on veut faire ici, là? C'est que ça soit une maison où les gens vont se sentir à l'aise, où les gens vont se sentir aimés. Il y a vraiment une possibilité ici que l'Église de la Victoire locale soit vraiment un refuge pour vous, que vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en famille à l'Église ici. Donc, on a une vision locale et il y a plein d'opportunités pour vous de servir. La semaine passée, toutes les semaines à date, on a toujours donné un dépliant pour ceux qui voulaient s'investir dans le ministère, qui voulaient contribuer avec leur vie, là, avec leur temps pour servir Dieu. Et puis, si vous avez à cœur aussi de nous aider à ce niveau-là, vous êtes les bienvenus à le faire. À même prendre un des documents en arrière puis le remplir. Il y a de la place pour vous dans cette église. Et c'est sûr, en remplissant ça, ça ne veut pas dire que demain matin, vous allez conduire les champs si vous dites que vous êtes un conducteur de champs. Mais au moins, on peut connaître vos désirs, votre cœur pour le faire. Parce que nous, on veut célébrer les dons que Dieu nous envoie. Quand Dieu nous donne un don, on dit merci Seigneur, on les reçoit. Et là, c'est juste savoir comment ils peuvent bien travailler avec le restant du corps de Christ. Donc, localement, ce qu'on veut faire vraiment, c'est qu'on puisse s'aimer. Et je vais vous inviter dans Actes, chapitre 20 et le verset 7. On va parler un petit peu juste de la vision locale. Qu'est-ce qu'on veut faire? Actes, chapitre 20, verset 7. Ça dit ici, « Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il plongeait son discours jusqu'à minuit. » Donc, une des choses que l'Église primitive faisait, et ce qu'on veut faire aussi ensemble, c'est rompre le pain. Dans le sens, on va avoir une fraternité, on va marcher frères et sœurs ensemble. Et rompre le pain, c'est quelque chose, ça veut dire on mange ensemble.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.